dépend où on est bon.
Alors, d'abord, c'est un grand shiur cette semaine. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, ce Shabbat, c'est l'Asgir, donc c'est la date de décès de Rabbi Yaakov Ibn Habib, le compositeur du Hayn Yaakov. C'est ce Shabbat. Il est décédé ce Shabbat. Aujourd'hui, on est le 23, enfin le 27 Cheshvan. D'accord? 27 Cheshvan, donc voilà. Alors,
il y a des fois le 30 Cheshvan.
Et c'est en même temps, donc c'est en même temps les 30 jours du 16 octobre, d'accord? Donc on a la titre, ils ont marqué ça, donc nous aussi on fait le shiur les 30 jours.
On est le 7 déjà.
Ah bah ouais. Mais... bah en tout cas, ils ont dit que c'était aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui. 30 jours du 7 octobre, et donc c'est, on fait le shiur les Ilui Nishmatam, à la mémoire de tous les disparus. Alors, Tanou Rabanan. Tout le monde est bon? Alors. Donc je vous rappelle hein, que le principe du Hayn Yaakov, c'est une sélection de textes de tout le Talmud, ça couvre tout le Talmud, et donc y a, là on est sur la Gemara Brachot, donc c'est des thèmes autour de la Tchila. Beth Hillel Omrim, il y a une grande discussion entre Beth Hillel qui disent, à propos de la mitzvah de lire le Shema, Omdi Mekorin, on peut se tenir debout et le lire. Yoshvin de Corinne. Excusez-moi, il va pas venir, il va faire le coup.
Je suis arrivé. Non, je
peux pas. La mettre tête. Donc, Razak. Donc, je vous rappelle, on a vu plusieurs fois qu'il y a une mitzvah, et on m'a parlé de mitzvah un peu particulière, ce qui n'est pas très connu. Il y a une mitzvah de lire le schéma le matin et le soir, le matin et la nuit, d'accord? Une le jour, une la nuit. Indépendamment de la mitzvah du schéma avant de dormir. La mitzvah du schéma avant de dormir, on l'a dit plusieurs fois, c'est pour les mamans, enfin, c'est l'idée, on dort pas, on dort avec la protection, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le schéma du soir. Donc normalement, il doit y avoir trois fois le schéma. Une fois le matin, une fois la nuit dès qu'il fait nuit, 7 heures, et puis une fois le soir, 11 heures avant de dormir, en sachant qu'on avait dit que, bon, quand on est pressé, qu'on est fatigué, etc., on peut en faire un pour les deux, c'est pas grave. D'accord? Mais c'est vrai que le schéma du soir, il faut faire les trois paragraphes. Alors que le schéma d'avant de dormir, il suffit d'un seul paragraphe. Et donc, c'est important parce que la notion de mitzvah, c'est souvent une notion qui nous échappe. C'est-à-dire, les tefillines, chacun sait que c'est une mitzvah. Quand on met les tefillines tous les jours, on fait une mitzvah. Quand on fait Shabbat, le kiddush, on a fait une mitzvah. C'est les 613 mitzvot. Le schéma, par contre, comme c'est intégré dans la prière de façon factice, je vais m'expliquer parce qu'en réalité, la prière et le schéma n'ont rien à voir. On en a parlé plusieurs fois. Les Chachamim, pour nous faciliter la tâche, ils ont fait des packs de mitzvot. C'est-à-dire, ils ont dit, le matin, tu te lèves, et ben, tu vas mettre le talit, première mitzvah. Tu vas mettre les tefillin, deuxième mitzvah. Tu vas faire le schéma, troisième mitzvah. Et en même temps, tu fais la prière, l'amida. Mais ça n'a strictement rien à voir, les quatre mitzvot. Strictement. Les tefillin, d'abord, c'est une facultative. On n'est pas, oh, pardon. Le talit, c'est facultatif, excusez-moi. Le talit, on est obligé de mettre le talit que quand on a un habit à quatre coins. Comme on n'a pas d'habits à quatre coins, il n'y a pas de mitzvah des tzitzit. Donc ça a disparu les habits à quatre coins. Donc les chacham, ils ont dit, bon, on va pas faire sauter une mitzvah comme ça. Achetez des habits à quatre coins, mettez des tzitzit, et mettez-les tous les jours, comme ça vous faites une mitzvah. Vous comprenez? Personne n'a d'habits à quatre coins. Avant, ils avaient des habits à quatre coins, ils avaient des jalabas, des ponchos, etc. Et donc il y avait une mitzvah de la Torah. Donc il y a quelque chose de particulier. Et pourquoi c'est bien de le signaler? Parce que il y a plein de mitzvot qui sont des mitzvot qu'on appelle kiyumiyot. Vous avez deux sortes de mitzvot. Vous avez des mitzvot d'accomplissement et des mitzvot d'obligation. Je m'explique. Les tefillin, il n'y a pas le choix. On doit mettre les tefillin tous les jours. C'est clair, je ne sais pas demander ton avis. Si tu es fatigué, tu es malade, si tu n'as pas les nerfs, tu les mets. Il y en a pour deux secondes. D'accord? Tu fais Shema Israël, tu les enlèves. Ça met trois minutes, les tefillin. Donc, obligé. La mezouza, c'est obligé, si on a un appartement, si on a une maison. Si on n'a pas de maison, on ne fait pas la mezouza mezouza. Donc, ce n'est pas une mitzvah chiyuvit. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, je peux passer ma vie sans mezouza. D'accord? Je vais à l'hôtel, je passe ma vie à l'hôtel, je n'aurai jamais la mitzvah de mezouza. Donc, c'est différent des tefillin. Le talit, c'est chiyumit ou chiyuvit. C'est-à-dire, c'est une mitzvah d'accomplissement ou une mitzvah obligatoire? Eh bien, comment? Le talit, c'est une mitzvah d'accomplissement. Je ne suis pas obligé, je peux passer ma vie sans tzitzit. Les tefillin, c'est obligatoire tous les jours, on a dit Shabbat, obligatoire, etc. Donc, On n'a pas l'habitude de raisonner comme ça sur les mitzvot, parce qu'on a une approche aux mitzvot qui est globale, c'est-à-dire on dit, bon, il faut être un bon juif, tu fais ce que tu peux, tu fais Shabbat, le kiddush, tu fais ça, quand tu peux, tu fais ci, tu fais ça. Alors qu'en réalité, on doit au moins dans sa tête savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quand on le fait. Le schéma, c'est une mitzvah chiyuvit, c'est-à-dire que je veux rien savoir, enfin, je m'explique, hein, entre guillemets, tout ce que je vous dis. Tu dois faire le schéma, le matin tu te lèves, tu fais le schéma. Les brachot, tout ça c'est secondaire. D'accord ? C'est aussi ça qu'on n'est pas habitué à faire des classifications dans ce qu'on fait. D'accord ? Ça veut dire que si le matin t'es pressé, tu laisses tomber le talit. C'est pas grave. Tu le mettras demain. Les tefilines, tu peux pas. D'accord ? Donc le schéma, quelqu'un est très pressé, il s'est levé, il est 8h moins 20, il commence à 8h. Eh bien, en 3 minutes, il met les tefilines, en 1 minute 20, il met il fait le schéma, il pose tout, il s'en va. Ah, il est. Non, c'est pas grave ça.
Combien de temps ça prend pour faire ce talit ?
C'est pas grave. Quand on est pressé, on va au. Voilà, il faut savoir. Parce qu'il faut les plier, il faut l'enlever, etc. Tandis que quand vous expliquez ça aux gens, c'est clair, c'est moins difficile. Et la tefila, ben la tefila, c'est une obligation rabbinique. C'est bien de faire shacharit. Mais shacharit, c'est long. Ça met 20 minutes, une demi-heure. Des fois, on est pressé, des fois, on est en retard. Si on a le temps, tant mieux. Mais shacharit, ça rallonge, hein, ça prend du temps. Tandis que. Et c'est pas grave si on n'a pas pu faire shacharit, on fera mincha, on fera ci, on fera ça. Je m'explique que c'est moins grave. Alors que tefillin et schéma, c'est obligatoire. C'est clair? Et le soir, c'est pareil. Le soir, on rentre, on est fatigué du travail. J'ai pas les nerfs de faire arbitre, je fais pas arbitre. D'autant plus que ceux qui ont encore des réminiscences, arbitre est considéré comme facultatif. Puisque les trois prières sont liées au sacrifice, il y avait du temple, il y avait le matin, il y avait l'après-midi, mais le soir, il y avait rien. La nuit, c'est repos. Donc la Chacham me dit non, mais quand même, c'est bien de faire une prière la nuit, etc. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va pas. D'accord. Allez, d'accord, arbitre. Mais quand j'ai le temps. Par contre, le schéma du soir, d'accord, c'est obligatoire. Et si je devais choisir entre arbitre, le schéma du soir et le schéma d'avant de dormir, je fais quoi ?
Schéma avant de dormir.
Pas du tout. Schéma avant de dormir, c'est juste pour faire des beaux rêves. D'accord, j'ai fait exprès d'être un peu provocateur. D'accord, c'est pas comme ça qu'il faut présenter. Mais la Gemara le dit que c'est comme ça. Que le schéma d'avant de dormir, c'est une protection pendant le sommeil, une protection des mauvaises pensées, une protection de ci. Mais c'est un schéma protecteur. Alors la protection, c'est bien. D'accord, je mets un Tehilim à côté de moi, je mets la Mezouza, j'embrasse tout ce que vous voulez, c'est des trucs comme ça. Mais par rapport à l'obligation du schéma de la nuit, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est aussi important pour ça. De faire une sorte de grille de ce qui est indispensable et ce qui est secondaire, c'est bien de tout faire, mais des fois on n'a pas les nerfs, on est fatigué, on est dans des situations où on peut pas, quelqu'un est à l'hôpital, n'importe quoi. Alors il dit voilà, le minimum vital. D'accord? On avait parlé de ça, quel est le minimum un soir de céder. Toutes ces choses-là sont importantes pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est au travail, quelqu'un qui est à la guerre. D'accord? La Gemara l'envisage. Les soldats à la guerre. Il n'y a ni shacharit, ni arvit, ni mincha, ni rien. Ni netilat yadaim. D'accord ? Il y a des règles de la guerre, c'est intéressant, on en parle, des règles, on ne les connaît pas. Le Chafetz Chaim, il a écrit un petit livre à l'époque, puisque les Juifs, ils étaient enrôlés dans l'armée russe, et il a écrit un petit livre, voilà le béaba, ce qu'on ne peut pas enlever. Donc, Netila, tu laisses tout tomber, tu manges, si tu fermes, si tu peux, si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Ah, Birkat, si tu peux faire le premier paragraphe, c'est tout, ça suffit. Après, t'es tranquille. Talit, laisse tomber, Charit, laisse tomber. Tfilin, en deux minutes, et si tu peux pas, bon, après, quand on ne peut pas, on ne peut pas, hein, mais. Le minimum, c'est ça. Ok ? Donc là, maintenant, on est en train de parler du schéma. Vous me suivez jusque-là ? Bon. C'est pas que je veux vous faciliter. Mais si, au contraire, c'est bien de pouvoir faciliter, de dire aux gens, voilà, ça suffit, c'est tout. Étonnant. D'accord ? C'est pourquoi c'est étonnant ?
Non, parce que, bon, c'est bien. Non, mais
oui, c'est bien.
C'est bien de savoir, mais.
Faire du prosélytisme.
Non, mais c'est pas ça, c'est quand vous avez quelqu'un, il est devant lui, il dit, oh là là, les religieux, ils ont une tonne de choses. Bah, je peux pas passer ma journée. Il n'y a rien, rien. Le fait. Le minimum. D'accord, je me rappelle, il y avait un chiour dans un rav en Israël qui est spécialiste des problèmes médicaux. Il disait, voilà, j'ai été interrogé par un chirurgien. D'accord? Il opère. Surtout maintenant, dans ces temps-là, il opère. Il ne peut pas sortir. Le soir du CDR, il opère toute la nuit. Comment il fait le CDR? Qu'est-ce qu'il fait? Combien de la matzah, les quatre verres, le ci, le ça? Bon, on n'en avait pas à l'époque de faire ça. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles on doit s'interroger. Et c'est pour ça que c'est bien que ça soit clair dans notre tête. Qu'est-ce qui est très important, moins important, pas important. Alors maintenant, ici, on est sur la mitzvah du schéma. La mitzvah du schéma, c'est une mitzvah obligatoire. Ce n'est une chiyuvit et non pas une kiyumit. D'accord? Vous mettez dans votre tête ça? D'accord? Je vous demanderai un de ces jours des exercices. Chiyuvit, c'est obligatoire. Kiyumit, c'est une mitzvah d'accomplissement. C'est-à-dire tu accomplis la mitzvah quand tu le fais, mais il n'y a pas d'obligation à te mettre en situation. Vous comprenez? Ouais. Alors maintenant, Bet-Hilal Omrim, Bet-Hilal ils disent, Omdim Vekorin, tu te mets debout et tu lis, Yoshvim Vekorin, tu t'assois et tu lis, Matin Vekorin, tu te couches et tu lis, Olchim Baderer Vekorin, tu marches sur la route et tu lis, Oskin Bimlartan Vekorin, tu peux même travailler et lire. Sur Bet-Shamay, Bet-Hilal ils disent, le schéma, tu le fais dans n'importe quelle position. Assis, debout, couché, pendant le travail. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ça le sens du schéma. Quand, c'est ce qu'on lit, si vous traduisez un petit peu. Bedibartabam, tu parleras de Torah. Beshivtecha bevedera, quand tu seras dans ta maison. Ouvlerdecha baderer, quand tu seras sur la route. Beshorbecha, quand tu te coucheras. Ouvkumecha, et tu te lèveras. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, tu dois parler de ces paroles de Torah qui est le schéma. D'accord? Et donc, c'est vrai que on avait dit que c'est aussi un message pour le temps. Le temps du coucher et le temps du lever. Mais Bet-Hilel, ils disent, c'est vrai, c'est pas faux. Mais puisque c'est dit dans la même lignée que des différentes positions, debout, couché, assis sur la route, ça veut dire qu'on peut faire le schéma dans la voiture. D'accord? Tu prends ta voiture, tu vas au travail, ça va avec les schémas, tu as le schéma à un feu, le schéma Israël, après tu roules, tu fais nanana, et t'es bon. Ça, c'est l'opinion de Bet-Hilel. Oui, non. Tandis que Bet Shammai, ils sont plus puristes. Eux, ils disent, non, le schéma du matin, il faut se mettre debout, comme c'est marqué, et le schéma du soir, il faut se mettre allongé, ou kumera. Donc, eux, pour eux, il faut tenir la position. Alors, Gemara a dit, Maaseh be Rabbi Ishmael, il y a une histoire avec Rabbi Ishmael, be Rabbi Lazar ben Azaria, Shayu Mesubin, ils étaient allongés dans un endroit, d'accord, allongés parce qu'ils mangeaient, les gens comme ça, ils mangeaient un peu allongés, ils étaient accoudés. Voilà, accoudés, allongés, voilà. Donc c'est deux raves de la Gemara. Ce ça là, c'est des Tanaïm ou des Amoraïm? Je sais pas, c'est de là. Rabbi Ishmael et Rabbi Lazar ben Azaria, c'est des Tanaïm ou des Amoraïm? Hein? Rabbi, c'est toujours Tana.
Ah oui.
Eh oui, c'est ça la règle, d'accord? Très bien. Aya Rabbi Ishmael Moté, et à ce moment-là, Rabbi Ishmael, il était allongé, c'était le soir, ils prenaient leur dîner. Rabbi Lazar ben Azaria, Aya Zakouf. Et Rabbi Lazar ben Azaria, il était debout. Chez Gyazman Kriat Shema, quand est arrivé le moment de Kriat Shema, Ita Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il s'est penché sur le côté pour faire le pour se mettre correctement. Il était sur le dos. Il s'est mis un peu sur le côté pour faire le schéma couché. Vezakaf Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il s'est mis debout. D'accord? Donc, ils ont inversé les positions. Celui qui était assis, il s'est mis debout. Vous suivez? Il faut bien... D'accord? Ils étaient tous les deux, ils étaient allongés. Quand est arrivé le moment du schéma du soir, un des deux qui était allongé, il s'est mis debout. Très bien. Amar le Rabbi Lazar ben Azaria, alors il a dit Rabbi Lazar ben Azaria le Rabbi Ishmael. Ishmael achi, Ishmael mon frère. Emshol lecha mashal, je vais te donner un exemple. Lema adavar domé, à quoi ça ressemble? Lechad sh'amroulo, un bonhomme on lui a dit, zekancha megoudal, ta barbe elle a poussé, hein, elle est belle. Amar lem il leur a dit, yé kenegeda mashritim, eh bien qu'elle soit rasée. D'accord? Il dit, mais ta barbe est belle, il dit, ben je vais la raser. Ah, karata, toi aussi, je comprends pas. Kolzman shani zakouf atamote. Tout le temps où j'étais dressé, toi tu étais allongé. Arshav, maintenant que c'est le moment du soir, shani t'ai dit que moi je me suis penché à ta zakaf, toi ça tu t'es levé, il dit je comprends pas. Quel est l'intérêt de se lever pour le schéma du soir? D'accord? Pourquoi? Je m'explique. Se lever pour le schéma du soir, c'est faire de l'anti-Bet Shammai. Bet Hillel. Pour rappeler, il dit, tu fais dans n'importe quelle position. Tu fais assis, debout, sur la route, etc. Bet Shammai, ils sont rigoureux. Debout le matin, allongé le soir, comme le zman du schéma. Ok? Il y avait les deux rabbins. Ok? Il y en a un des deux qui s'est allongé pour faire bien comme Bet Shammai. Et l'autre qui était allongé, il s'est levé. Alors il a dit, mais je comprends pas. Quel est l'intérêt de te lever? Puisque de toute manière, Bet Hillel, il s'en fiche. Et Bet Shammai, ils sont plus contents comme ça. Alors pourquoi tu fais le malin? Parce que tu étais allongé. Et, ça veut dire en réalité, c'était aussi un problème de disciple Bet Hillel Bet Shammai. D'accord? Donc l'autre, il a dit, il l'a regardé, il l'a vu allongé, il a dit, oh c'est bien ça. Comme il a dit, c'est bien, tu es allongé, tu vas faire comme moi, on va rester de l'allongé. Et l'autre, hop, il s'est levé. Alors qu'on ne gagne rien à se lever d'après Beth Hillel. Vous me suivez? Très bien. Amarlo.
Ça n'a rien à voir avec le fait que vous pourrez être dans une position acceptable pour faire la tefila.
Non, parce que l'autre, il était couché, mais il s'est mis sur le côté. Sur le côté, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de la tefila. On parle du schéma. La tefila, on ne pourrait pas faire. Mais le schéma, tu peux faire même allongé, tu peux faire même dans le lit. On peut faire le schéma avant de dormir dans le lit, il n'y a pas de problème. D'accord, on ne se met pas sur le dos parce que ce n'est pas une belle position, mais on se met sur le côté. Donc, en réalité, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de t'opposer frontalement à la position de Beth Shammai? T'étais bien allongé, fais comme moi.
Pourquoi le dos, c'est pas bien
Allongé sur le dos, c'est un peu orgueilleux comme ça, tu vois. C'est comme ça, tu fais comme ça, c'est comme ça. Au moins sur le côté, tu vois.
Et si on est obligé d'être sur le dos, il faut tourner la tête.
Quand on est obligé, il n'y a pas de problème. Ah voilà. Voilà, si on est obligé, il n'y a jamais de problème. Même la Amida, vous savez qu'on peut faire la Amida même assis, même couché. Ouais.
Dans la voiture. Assis,
ouais. Dans la voiture, dans l'avion, dans le train, on fait la Amida assis. Il ne faut pas la Amida debout en se tenant partout et en attendant le contrôleur, d'accord? Et dans l'avion, encore pire. Assis, c'est le mieux.
Même dans la voiture.
Dans la voiture, pas quand on conduit. Ouais, pas quand on conduit, d'accord, quand on conduit.
Est-ce que dans ce cas particulier, c'est pas pour marquer le caractère quelque peu sacré du schéma qu'on change de position par rapport à celle qu'on avait?
Pas mal, sauf que Beth Hillel, ils ne sont pas d'accord. Beth Hillel, il dit, tu fais comme tu veux. Alors vous allez me dire, entre celui qui titule, tu fais comme tu veux, et l'autre qui t'impose une position, pourquoi t'opposer? Si je peux faire les deux, je suis gagnant. Beth Hillel, si je demandais à Beth Hillel, voilà, monsieur Beth Hillel, si je reste allongé, est-ce que j'ai le droit? Tu fais ce que tu veux, debout, couché, sur la tête, tu fais comme tu veux le schéma. Ok? Donc c'est ça qu'il a dit son copain. Il a dit, mais pourquoi chercher des histoires? Tu étais bien, tu étais allongé, on était tous les deux allongés, comme Beth Shammai, le schéma du couché, c'est bien. Pourquoi tu te mets debout? À Marlo, il lui a dit, Ani Asiti Kedivre Beth Hillel. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai fait comme Beth Hillel volontairement, Veata Asita Kedivre Beth Shammai. Et toi, tu fais comme Beth Shammai. Nous sommes opposés. Vélo hot, et pas seulement ça. J'entends ta contradiction. Tu me dis, oui, tu fais comme Beth Hillel, mais rien ne t'oblige à marquer ton opposition. Et là, chez Maïr ou à Talmidim, c'est de peur que les élèves voient Vigbeu, Alakha, les Dorot, et qu'ils fixent la Alakha. Ça veut dire que si il y avait des gens, des élèves à nous qui nous regardaient, ils ont dit, les deux rabbins, ils sont restés allongés, donc la Alakha est comme Beth Shammai. D'accord? Surtout moi, etc. Et je ne veux pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Beth Shammai? Alors c'est vrai que quand on a fixé la Alakha, on a fixé la Alakha. Mais pour eux, c'était ça avait l'air d'être un problème fondamental de garder la Alakha comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que la Alakha comme Beth Shammai, elle est rigoureuse dans la position et donc elle te coince. Alors que c'est toute l'idée inverse. Beth Hillel, ils te disent, c'est quoi le schéma? C'est affirmer l'acceptation, l'unité et le Kabbalat Ol Malchut, accepter le joug de Dieu. Donc accepter le joug de Dieu pour Beth Shammai, ils disent, tu bouges pas. Garde à vous le matin, allongez le soir, comme c'est marqué, c'est ça. Beth Hillel, ils disent non. L'acceptation de la royauté divine ou de l'unité divine, comme dit Meir, c'est dans n'importe quelle position. Tu vas au travail, tu acceptes. Tu vas, tu te sur la route, tu acceptes. Tu dors, tu manges, tu bois. Dans toutes les positions, on doit être capable d'affirmer son attachement avec Hachem. Donc il dit, c'est plus qu'un problème de querelle Beth Hillel et Beth Shammai. C'est un problème fondamental. C'est vrai que si on peut faire comme les deux, on aurait fait comme les deux. Mais là, faire comme Beth Shammai, c'est contredire Beth Hillel. C'est ça qu'il faut comprendre. Que quand Beth Hillel, ils ont dit, tu fais dans la position que tu veux, c'est pas pour dire, ouais, fais ce que tu veux, ça dérange personne. Non, c'est beaucoup plus que ça. Tu dois faire dans toutes les positions. Et c'est pas une prière. C'est-à-dire que tu dois être capable, et donc quasiment, si on écoutait Beth Hillel, il te dit, tu sais quoi, le matin, fais le schéma au travail. C'est très très bien. Fais le schéma dans la voiture. Fais le schéma en mangeant. Fais le schéma avant de dormir. Pour t'imprégner du fait que tu peux être relié à Dieu, il n'y a rien qui t'éloigne de Dieu. Tandis que Beth Shammai, ils disent, voilà, là, c'est comme ça, mais il y a, hors de la position, il n'y a pas d'acceptation du joug divin. Donc c'est pour ça que Rabbi Ishmael, il s'est opposé, il a dit, c'est vrai, j'ai l'impression d'être un terroriste en me levant là, comme ça, pour ne pas faire comme toi, c'est pas que j'en ai pas avec toi, mais je voulais que les gens comprennent que le schéma du soir n'a rien à voir avec la position couchée, c'est le schéma du soir. Ok? Très bien.
On a une question comme celle-là.
Ouais.
Quand on est en voiture, quand on sort, par exemple, sur le travail, je commence à arbitre dans la voiture. Je fais jusqu'à la.
Ouais.
Le laps de temps qu'il y a, qu'il doit y avoir entre
Gan Israël
ouais.
et l'Amida.
Ouais, on avait vu ça, vous vous rappelez, il ne faut pas trop
matin, pas problème.
Mais le soir aussi, c'est pareil, il ne faut pas trop. Puisque l'Agmara a dit normalement, même le soir, ça aide, a dit à l'Agmara, mais il y a Ashkivenu. L'Agmara dit oui, mais c'est comme si c'était un prolongement. Donc il faut
on
pas.
Avait dit, on avait dit le matin, il faut tout de suite.
En réalité, le soir, aussi, on doit faire pareil. C'est moins strict, mais c'est aussi important. Donc, il faut vous arranger pour faire.
Il faut avoir 5 minutes de débattement. Quoi.
C'est un peu. C'est pas très bien. Ouais. Maintenant, c'est pas interdit. Mais.
Oui. Non, mais bon.
En tout cas, pas parler, on n'a pas le droit de parler. Mais non. Quand vous arrivez, vous faites l'amida. Vous dites même pas bonjour à votre femme.
D'accord. Non, mais bon, tu sais, là, vous êtes.
Non, c'est moins bien. Il vaut mieux. D'accord. C'est pas tellement long, vous gagnez pas beaucoup. Quoi.
D'accord. Non, d'accord.
Alors, l'Agmara, vous y êtes ou pas? Maï Mevarer. Alors, vous savez que. Maintenant qu'on a dit que le schéma c'est une mitzvah, comme toute mitzvah, elle a une bracha. Chaque mitzvah, en général, il y a une bracha. Pourquoi ? Pour différencier un acte personnel d'un acte divin, d'un acte religieux. C'est-à-dire que dis, je suis en train de faire ça, à chaque qu'il y a des gens que tu m'as ordonné de faire ça. Ok ? Pourquoi on fait les tefillin ? Chaque fois que vous allez trouver une bracha, c'est d'ailleurs intéressant. Dans notre recherche sur les mitzvot pour différencier les choses, chaque fois que vous, en général, chaque fois que vous allez trouver une bracha, égale mitzvah de la Torah. Puisque dans une bracha, on dit Asher ki deshanu be mitzvot avet sivanu, les chefs basuka, dormir dans la souka, les aniyar tfilin, les tatev betzitzit. Donc la bracha, voilà, c'est pour ça que j'ai dit en général. J'ai dit, c'est un contre-exemple, puisque il y a certaines mitzvot des rabbanan sur lesquelles ils ont mis vet sivanu. Et là-dessus, chaque fois, l'Agmara dit, mais attends, de quel droit vous dites Betsivanu? Béni soit l'Éternel qui nous a ordonné de faire Netilat Yadayim. Il ne nous a jamais rien ordonné, Hachem. L'Agmara demande, elle est claire. Elle dit, il ne nous a pas demandé ça. Pourquoi les Chachamim se sont permis de dire Betsivanu? Alors l'Agmara, à chaque fois, elle répond à peu près la même réponse. Elle dit, oui, mais comme Hachem, dans la Torah, il nous a demandé d'écouter les Chachamim, donc indirectement, on peut dire Betsivanu. Mais l'Agmara, à chaque fois, elle met le doigt dessus, en disant, c'est pas très juste de dire Vetsivanu sur des mitzvot de Rabbanan. Par exemple, on dit Vetsivanu, non, ça rien, non, Cherkianu, c'est une bracha, c'est comme Chakon Yavidvoro. Là, je parle, Asher qui deshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifié, qui nous a ordonné, il n'y en a pas beaucoup des qui nous a ordonné. En général, c'est les mitzvot de la Torah. Mais vous avez par exemple la Megillah, on dit Vetsivanu, la Gemara aussi, elle saute au plafond, on dit vous, Vetsivanu. La Hanoukia, bientôt, la Hanoukia, on dit Vetsivanu. Donc là aussi, il faut avoir l'œil aiguisé. Parce que si vous avez un enfant, un petit enfant qui dit, mais papa, Vetsivanu, pourquoi il nous ordonne, c'est pas marqué dans la Torah, la Hanouka, c'est l'époque des Grecs. Pourquoi on dit Vetsivanu? Il faut savoir lui répondre. Vous comprenez? Alors l'Agma, en tout cas, voilà, ici l'Agma a dit, bon, mais, et le schéma? Oui, c'est une mitzvah de la Torah. Donc il devrait y avoir une bracha. Vous me suivez? L'Agma a dit, maï mevarer, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Alors là, on arrive dans un passage un peu, pas complexe, mais il faut bien réfléchir. Amar Rabbi Yaakov, il a dit Rabbi Yaakov, Amar Bioshaya, Yotzer Or Borer Chosher. En réalité, le schéma, il est précédé de deux brachot, d'accord? Qui sont Yotzer, le Yotzer, et Avat Olam. Ça, ce sont les deux bénédictions introductives au schéma. Même si ce n'est pas d'Asher qui est déjà nous, on reviendra dessus, mais ce sont deux brachot qui permettent d'introduire le schéma, d'accord? Et donc, effectivement, ça, on l'avait vu aussi, le même travail qu'on fait sur les mitzvot, c'est important de faire dans la tefila, de comprendre les différentes parties. Toute la première partie, les brachot du matin, ça n'a rien à voir. Les brachot du matin, c'est quand on se lève, on fait à la maison. Et après, vous avez Odou, Baruch Shamar, Le'ashriya, Le'luka, jusqu'à Ishtabar. Ça, ce sont des louanges pour Hachem, introductives. Après, commence le premier groupe, c'est le schéma avec ses brachot avant-après. Et après, un troisième groupe, c'est la Amida, qui n'a rien à voir. On a bien compris, la Amida et le schéma n'ont rien à voir. D'accord ? Et pourtant, on les colle, etc., on a eu ça. Mais sur le principe, c'est d'ailleurs ce qu'on fait à Mincha. À Mincha, on fait la Amida directe. Et c'est ce qu'on pourrait faire à Shacharit, ce qu'on pourrait faire à Arvit. Tu fais la Amida et c'est fini. Vous comprenez ?
À Moussaf, c'est pareil.
Voilà, et c'est d'ailleurs, il y a une halakha, qu'on ne suit pas, mais il y a un avis comme ça, que si quelqu'un, il rentre le soir à Arvit. Quand moi j'arrive en retard, par exemple, et je rentre, les gens sont en train de faire l'amida. Qu'est-ce que je fais?
Tu fais l'amida avec les gens.
Eh bien, normalement, je fais l'amida. Pourquoi? Parce que le schéma, ça n'a rien à voir. Le schéma, je le ferai après. D'accord? Avatola, ma chère Bidvaro, etc., Medvemuna, je le ferai après. Ce sont des blocs autonomes. Vous me suivez? C'est clair ça? Donc, l'Agmara a dit, Rabbi Yoshaï, il dit, quels sont les brachot du Shema? Yotzer or bore chosher. Yotzer or, que Dieu a créé, on bénit Hachem, qui a créé la lumière et qui a créé l'obscurité. Ok? Alors, la Gemara dit... Voilà. On va revenir à ça. La Gemara dit, mais l'ema yotzer or bore noga. C'est bizarre, la Gemara dit, chosher, c'est l'obscurité. D'accord? Le noir. Donc le noir, en général, c'est la midat hadin, c'est la tribu de rigueur, c'est le mal, etc. Enfin, c'est une symbolique, en tout cas, le rocher, quand quelqu'un... Voilà. On va voir, doucement. Que en général, le rocher, c'est...
Les ténèbres.
Voilà, les ténèbres dans le sens, l'absence de clarté. Même la clarté de vision, la clarté de compréhension. Le rocher, je suis dans le noir. Quand on dit je suis dans le noir, c'est-à-dire je comprends rien. Et donc, ici, on a, dans les brachot introductives au schéma, on a cette brachot, yotzer or bore chosher. Alors, la Gemara dit, bon, mais t'es pas obligé quand même de parler de chosher. C'est vrai qu'Hachem, il a créé le chosher. Et d'ailleurs, il a créé le chosher avant la lumière. Puisque quand il y avait le monde, c'est marqué, le chosher alpeneum, il y avait l'obscurité partout. Ok? Et c'est secondairement qu'est arrivée la lumière. Mais malgré tout, dire qu'Hachem a créé la lumière... Et dire qu'il a créé l'obscurité en tout cas, ça sous-entendrait qu'il a mis le mal dans le monde, la midat hadin et la rigueur. Donc la Gemara dit, je te propose une formulation plus délicate, yotzer or ou bore noga. Il n'y a qu'à dire, il a créé la lumière et il a créé noga, le crépuscule. Pour dire que ça, c'est en train de se coucher, mais il y a encore un peu de lumière. Ok? Oui? Toujours se rappeler, règle numéro 1, c'est des chachamim, ça veut dire qu'ils ont toujours deux, trois idées derrière la tête, ils ont toujours trois coups d'avance par rapport à nous. Ok, donc c'est pas juste, dit blanc cassé au lieu de dire blanc, on s'en fiche. Donc il dit non, quand dire que yotzer or bore chosher, c'est un peu péjoratif, ça donne à réfléchir. Moi je préfère une expression qui dise oui, il a créé la lumière et il a créé la pénombre, voilà. La pénombre, c'est moins péjoratif. Ça se sous-entend qu'il y a toujours un peu de lumière dans l'obscurité. La Gemara dit non. Que dire-t-il Kamrinan? On dit comme c'est écrit. C'est marqué un pasouk dans Ishaïa, Yotzer Obore Chosher, donc on reprend le pasouk, on ne doit pas avoir peur de ça. Alors, on va s'arrêter là, déjà la première fois. Dans l'expression Yotzer Or Obore Chosher, vous avez bien sûr remarqué que ce n'est pas le même terme. Un c'est Yotzer et l'autre c'est Boré. D'accord? Et vous savez tous que maintenant vous êtes bien avancés, qu'il y a les quatre mondes de la création. Il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. D'accord? Dans le processus de la création, quand Hachem il a voulu créer le monde, d'accord? Hachem il fait comme ça et le monde se crée. Mais en réalité, Hachem il a exprimé la création du monde pour que ça soit accessible à l'entendement de l'homme. C'est-à-dire il y a des phases, il y a les sillons de la création, etc. Bon, peut-être un jour on étudiera, ce serait très important comment Hachem il a créé le monde. Il y a eu il a créé un continent, la dérive des continents et tout ça, c'est marqué dans Bereshit. En tout cas, sur les quatre mondes, vous avez Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Beria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est un terme inusité. On appelle ça l'émanation. Atzilut, ça vient du mot Etzel. Etzel, c'est à côté. Je suis Etzel, je grablis, à côté. Atzilut, quand vous avez une idée, d'accord, elle émerge. L'émergence, c'est le monde de l'émergence. On appelle ça l'émanation. L'émanation, c'est ce qui émerge. Eh bien, quand Hachem il a décidé de créer le monde, entre guillemets, il a fait émerger une volonté. D'accord? Eh bien, cette volonté, elle était, bien qu'en réalité, ces quatre mondes, cette succession n'existe pas. Parce que pour lui, ça va tellement vite, il n'y a pas de temps pour Hachem. Donc il a en même temps l'idée, en même temps la création, en même temps, tout est en même temps. Mais il dit on va décomposer. Donc le premier monde c'est Atzilut. Le deuxième c'est Bria. Bria c'est créer ex nihilo. Plouf, la matière. C'est pour ça que c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ça veut dire que c'est une sorte de pack de matière, d'accord, qui après va se décomposer dans les six jours de la création. Mais au début, Bereshit bara, c'est la Bria. D'accord? Après la Tzilut. Donc la Torah ne nous parle pas de la Tzilut. La Torah commence déjà parce que la Tzilut n'est perceptible à l'homme n'est pas persécuté des hommes, puisque c'est la phase qui est l'émergence de la volonté chez Hachem. Donc quand la Torah s'exprime, elle part avec Bria. Et après, vous verrez dans Bereshit, vous commencez à voir apparaître le mot Yetzira et Asiya, ces trois termes. Quelle différence entre Bria, Yetzira, Asiya? Eh bien, pour imager les choses, on va prendre une table. D'accord? Cette table-là. La première chose, c'est créer du bois. Le bois, c'est Bria, la matière bois. Ensuite, vous avez Yetzira. La Yetzira, c'est Yotzer, c'est le sculpteur. D'accord? C'est sculpter la table. Et la Asiya, c'est faire. Comme c'est marqué dans la femme captive, Asta et Tsipourne, elle a fait ses ongles. Faire une chose, c'est terminer. Donc quand il y a le bloc de bois, c'est la Bria, le sculptage de la table, c'est la Yetzira, je l'ai formé, et la Asiya, c'est finir, polir, peindre. Ça, c'est la finition, c'est la Asiya. Sache que là, on est bon. Donc, il faut toujours retenir ces trois termes-là. Et donc, c'est pour ça que vous avez Yotzer Adam dans les Shiva Brachot, quand on se marie. On fait cette Brachot. Eh bien, une des Brachot, c'est Yotzer Adam. Hachem, il a Yotzer Adam. Mais on est à la phase 3. Il y a Atzilut Bria Yetzira. Oui. Et la phase 4 ?
La femme.
Qui veut... Exactement. Exactement, c'est la femme qui aide l'homme à se parfaire. C'est pour ça qu'on ne dit pas Hachem il a Asa et Adam. Non, la finition de l'homme, c'est et la Brit Mila et le mariage. C'est ça qui va donner la finition, le polissage. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit Yotzer Adam. Est-ce que là on est bon ? Donc ici, on a une terminologie dans le Yotzer qui est Yotzer Or au Boré Rocher. D'accord ? Est-ce que ça s'articule avec ce que vous savez? Ben oui, parce que quand Hachem il a créé, d'accord, après le monde de l'émanation, etc., de la Yitzira, apparaît Bereshit Bara Elohim et Hachem et Aretz. Quand Hachem il a jeté la matière, il l'a créé, plouf, la matière a existé. Cette matière existait dans un océan de noir. En même temps qu'Hachem il a créé la matière, il a créé ce noir. D'accord, il n'y avait pas de lumière. Donc c'est pour ça qu'on dit Bara Elohim et Hashamayim Vaetaretz, il a été boré le Hashamayim Vaetaretz et en même temps le Chosher. D'accord ? Le Chosher est considéré comme une Bria et non pas comme une absence de lumière. D'accord ? C'est une création en elle-même. Bon, on va pas. Oui, si tu veux. Par contre, c'est à partir de premier jour et deuxième jour qu'apparaissent la lumière, Yehi Or, d'accord ? Et donc la lumière c'est une Asiya. Vayas Elohim est à Shnamerot Agnim, il a fait. Donc, en fait, c'est à partir de la matière primitive, Hachem, il l'a modelé, il l'a façonné, d'accord, pour donner la Yetzira du soleil, des étoiles. D'accord? Donc, voilà pourquoi on a, paradoxalement, on a Yotzer Or, mais Boré Rocher. Est-ce que là, vous êtes bon? Ok? Donc, ça correspond bien. Que la lumière n'existait pas au premier jour. Dans la Bria initiale, il n'y avait pas de or. Le or est arrivé secondairement. Yotzer or. À la phase 3. Ou Boré Rocher. La Gemara demande, achète la deuxième ligne. Et la Meata. Mais alors maintenant, qui connaît le Yotzer dans les pontes hein? Yotzer Or ou Boré Rocher, après Rosé Shalom ou Boré Takol. Oui, et donc si vous remarquez, demain matin quand vous allez faire Shaharit, vous allez dire, ah mais purée, on a étudié ça. Yotzer Or ou Boré Rocher, Rosé Shalom. Vous voyez le quatrième monde, Rosé. Rosé Shalom ou Boré Takol. Et vous avez réapparaître le Boré. Vous suivez? Donc on a les trois mondes et une réapparition du Boré. Donc la Gemara dit, mais alors si véritablement tu veux te coller au texte, pourquoi tu continues en disant Osé Shalom au Boré Takol? Il va dire Osé Shalom Boré Ra. Pourquoi? Parce que dans le verset de Isaïe, d'accord, le pasouk qui dit Osé Shalom ou Boré Ra. Hachem, Osé Shalom, il fait la paix, ouais. Ou Boré Ra, il a créé le mal. La Gemara dit pourquoi on ne dit pas ça dans le Yotzer? Si, toi, tu vois bien que. Tu as arrangé les choses, on doit dire Osé Shalom ou Boré Ra, tu as dit Osé Shalom ou Boré est à Kol. Quand on dit Kol, tout de suite, quand on dit Kol, ça veut dire il y a tout dedans, le bien comme le mal. En réalité, le fond de cette problématique qui tourne autour des mots, d'accord, c'est de savoir qui est responsable du mal dans le monde? D'accord? La Gemara a dit qu'une fois, il y a un apikoros qui est venu voir un Chacham, Rabbi Ishmael. Il avait dit, mais enfin, il y a bien deux pouvoirs dans le monde. Il y a le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. Et le pouvoir du mal, il a l'air d'être autonome. D'accord? C'est les grandes questions qu'on a, surtout maintenant, les grandes questions dans ce monde. Ça a l'air d'être d'échapper à tout contrôle, hein, tout ce qui se passe. Donc il faut avoir beaucoup de recul et beaucoup d'humilité pour savoir qu'en réalité, tout ça concourt à un plan qui nous échappe, mais en vérité, ça n'échappe pas à la volonté d'Hachem. Ok ?
Le mal,
le noir, l'obscurité. Donc la Gemara a dit, puisque tu as fait le malin, en disant « Yotzer or boré rocher », tu as dit « à mes crépuscules », tu m'as dit « non, moi je suis très textuel, le texte il dit « rocher, c'est rocher ». Alors la Gemara dit « si tu veux faire le malin, va jusqu'au bout ». Il fallait dire « oh c'est shalom » ou « boré ra ». Dis-le qu'Hachem c'est lui qui crée le mal. La Gemara dit « non, mais on peut pas dire ça. On peut pas, les gens ne peuvent pas entendre « boré ra ». D'accord ? Que c'est lui qui est responsable. Quand on dit « boré ra », c'est-à-dire c'est lui qui en est responsable. Et c'est pour cette raison que même si on en parle et on dit, mais on ne doit pas trop s'approfondir et trop insister là-dessus, parce que c'est trop lourd pour l'esprit de l'homme. D'accord? Ça veut dire, un juif il a la emouna, qui a que, après, un juif il a la emouna, qui a que Hachem dans le monde. Il y a pas, c'est ça qu'Abraham il a mis dans le monde. Il y a que lui, il n'y a pas d'autre dieu. Et quand on dit autre dieu, bien sûr, il y a que les imbéciles qui s'intéressent au dieu du soleil, dieu du vent, dieu de la lune, ça je m'en fous de ça. C'est des idiots. Il y a un dieu des dieux. Mais par contre, là où ça devient compliqué, c'est le mal. D'accord? Le mal, ça, c'est la problématique constante. Or, Abraham, il a aussi affirmé, il a aussi convaincu sa génération que c'est Hachem qui était responsable de tout. Mais la Gemara, ici, elle dit que je veux bien qu'on affirme tous les jours, d'accord, que Dieu crée l'obscurité. Bon, ça va, ça mange pas de pain. Par contre, répéter tous les jours, borera, 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 eh bien, l'homme, il peut un jour se révolter. C'est-à-dire quoi? D'accord, de temps en temps, je fais une piqûre de rappel, c'est lui qui est responsable de tout. Mais trop s'approfondir sur la question, ça dépasse notre entendement. D'accord? C'est quand on se met à penser, oui, à la Shoah, et la Shoah, ici et ça. Alors maintenant, en plus, on a des Shoah un peu plus. Donc si on va dire, oui, mais c'est Hachem, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. D'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara dit, c'est vrai. C'est ça le passage que tu veux étudier, Ishaïa, c'est marqué au Borera. Mais dans le quotidien, nous, on doit dire « Ouboré est à col ». C'est quoi « Ouboré est à col » ? C'est « Shalom, Ouboré est à col ». Tout, c'est quoi tout ? Ça veut dire que le mal ne peut se comprendre et s'entendre que dans une vision globale. C'est-à-dire que, à regarder comme ça, oui, le mal, c'est le mal. C'est impossible autrement, d'accord ? Type, il a la gangrène, tu lui amputes le pied, c'est du mal. Vous êtes un pauvre type, monsieur le chirurgien, d'accord ? Si tu prends un peu de recul, qu'avant il avait l'infection et après on va lui mettre une prothèse, il va pouvoir. Bon, d'accord. Mais il faut prendre du recul et voir les choses dans leur globalité. C'est pour cette raison qu'au lieu de dire au Borera, il faut dire Boré est à col. Il a tout créé. Ça veut dire qu'il faut voir les événements dans une globalité. Et dans une globalité, les choses, elles ont un sens différent. D'accord? Alors des fois, la globalité, elle est, même si on veut voir les choses dans une globalité, c'est étroit pour nous. Mais quand on les voit que sur l'événement, c'est impossible. D'accord ? Et comme on avait dit, enfin, ceux qui ont entendu, c'est même pas bon de réfléchir là-dessus. Parce qu'on se trompe. La même chose. Maintenant, on a 50 ans, enfin, même si ça devient compliqué, on a 50 ans de recul par rapport à la Shoah. Ok ? 50 ans, 60 ans. La Shoah, c'est le mal au maximum. Mais on peut dire, alors après, dans le détail, c'est aussi incompréhensible. Mais je peux dire, bon, voilà, si vous prenez une globalité. Ça fait 3000 ans que le peuple juif était renvoyé. Bon, on a payé très cher pour des raisons que j'ignore. Mais on a récupéré Israël et voilà, on retourne chez nous, etc. Bon, peut-être que dans une vision globale de l'humanité, sur 5000 ans, sur 6000 ans, il y a peut-être quelque chose, c'est l'amputation pour. Vous allez dire, d'accord, l'amputation. Mais le pauvre pied, qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre pied, c'est pas ton problème. C'est-à-dire, tu peux pas savoir. C'est vrai que ça, cette vision globale ne résout pas le problème de ceux qui sont morts et ne résout pas le problème celui-là plutôt que celui-là plutôt que celui-là. Ça, c'est des calculs pour Hachem. Après, il nous rendra des comptes. C'est marqué, il nous expliquera. Mais dans une vision globale, au lieu de dire dans le 10 jours, vous savez, c'est Dieu qui est responsable de la Shoah. Tais-toi, c'est mieux. C'est ridicule, par exemple. Non, c'est Dieu qui gère tout. Au Boré est à col. D'accord ? Donc, On peut dire Boré Rocher, que Dieu y crée l'obscurité, c'est-à-dire y crée la difficulté de compréhension, mais de dire Borera, même si le prophète il l'a dit, de le mettre dans le cadre de la prière, on doit le dire, on ne doit pas le dire, on préfère dire Boré et Akol. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui, mais quand tu dis Kol, ça inclut les autres éléments autour, une vision globale du monde et le rat, quand il s'inscrit dans une vision globale, parfois, il trouve un sens. Pour un individu, c'est très compliqué, même pour une collectivité, mais sur l'ensemble du temps du monde et sur l'ensemble de la collectivité du peuple juif, parfois les choses, elles peuvent se nuancer. Ok ? Donc en tout cas, c'est pour ça que la Gemara a dit, je suis puriste et je ne veux pas dire les pénombres, je dis le noir. Bon, pas de quoi ça, c'est pas méchant. Mais par contre, aller jusqu'à dire Ossé Shalom ou Borera, comme l'a dit le prophète, ça non. Ça, on peut pas, les gens ne sont pas capables de l'entendre. Donc il vaut mieux dire Ossé Shalom Borera Tagon. Donc vous voyez que dans ces quatre premiers mots du Yotzer, combien il y a de réflexions, c'est-à-dire comment en réalité, si quelqu'un il peut s'approfondir, c'est ce qu'on va dire demain, Baruch HaDashem, Elohim Meram Yotzer Or ou Borera Rocher, Ossé Shalom ou Borera Tagon. D'accord? C'est ça qu'il y a là-dedans.
La première fois, on a pris prétexte que c'était le prophète qui l'avait dit pour pouvoir dire.
Oui, parce que ça ne t'amenait pas trop loin. Ça veut dire, Rocher, c'est pas encore Tsero Boré Rocher. Ça ne t'amène pas trop loin dans la réflexion. Mais par contre, Borera, même si c'est vrai, ça t'amènerait trop loin dans la réflexion et ça pourrait t'amener trop loin dans ta révolte. D'accord ? Il y a une chose. La révolte d'un homme, d'accord ? Elle est compréhensive par les Chachamim. C'est une des raisons pour lesquelles les Chachamim ont dit quand on a perdu un être cher, il n'y a pas de mitzvot. Tu fais le minimum. Pas de tefillin, pas de talit, rien. Pourquoi ? Parce qu'on est révolté à l'intérieur. C'est un sentiment normal. Alors maintenant, ce que les Chachamim te disent ici, c'est qu'il faut éviter de mettre l'individu dans des situations de révolte. D'accord ? Et donc, dans sa manière de parler, etc., on doit choisir ses mots pour que les gens puisse entendre ce qu'on a à dire. Et la Marava, donc la Gemara dit, Achanami Limanoga, alors la Gemara dit, mais alors si c'est comme ça, que tu as peur, oui, alors pourquoi tu n'as pas dit crépuscule, l'obscurité aussi fait peur, la question qu'il a demandé Michel, puisque nous, on a répugné à dire, Ossé Shalom Borera, de parler que c'est Hachem qui a créé le mal, alors on pourrait aussi être encore plus prudent, et au lieu de dire, Yotzer Or ou Boré Rocher, on aurait dit Yotzer Or ou Boré Noga qui crée le crépuscule. Parce que dans l'idée de crépuscule, oh, c'est joli, c'est, y a une idée de petite lumière dans l'obscurité. C'est pas mal ça comme idée. Lishnamalia, Elam Rava. Rava il dit, Kedelazgir midat yom balayla, midat layla bayam. Rava il dit, non, c'est important de parler de l'attribut de jour dans la nuit et de l'attribut de nuit dans la jour. Vous voyez la mida. Midat yom. D'accord ? Midat Yom, c'est la Rachamim. Et Midat Laila, c'est le Din. Le Rocher, c'est le Din. Ok ? Et si ça s'assimile au Rocher, c'est que le Din, il est parfois incompréhensible. Il est noir. La noirceur du Din. C'est-à-dire, autant la Rachamim, c'est quelque chose d'audible, autant le Din, c'est quelque chose souvent d'inaudible. Et la Gemara dit, c'était important de parler de Yom la nuit et de parler de la nuit de Yom. C'est pour cette raison que le matin, on dit Yotzer Or Boré Rocher. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la nuit. Voilà, tu viens de te lever. C'était lui qui avait créé cette obscurité ou cette difficulté de compréhension. Et c'est lui qui crée le jour. Et la même chose la nuit. La nuit, on te dit, c'est vrai que c'est la nuit. C'est vrai que tu comprends pas. C'est vrai que tu es révolté. Machem, il a créé aussi le jour. La Gemara dit, Bishlam Amidat Laila Bayom. Je comprends. L'attribut de la nuit, on doit le prononcer le jour Kedamrin Anyotzer Oboré Rocher. Et là, Midat Lai Yom Balaila. Mais parler de l'attribut de jour pendant la nuit, Echim Ashkachat là, où on a trouvé, Amar Abaye, Abaye dit, Golel Or Mepene Rocher, Vechocher Mepene Or. C'est ce qu'on dit le soir dans la Sherbi Dvaro. Golel Or, ça veut dire, il tire. Golel, c'est la Glila, comme la Glila du Sefer Torah. Il déroule la lumière devant l'obscurité. Rocher Mipeneor et l'obscurité devant la lumière, ça veut dire que, comme il a dit David Amener, Gamze Yavor, c'est-à-dire qu'on doit avoir conscience que les choses changent et que même si maintenant tu es dans l'obscurité, eh bien demain ça sera la lumière. Ok, okay. Voilà, tout ça c'était le passage qui parlait des brochot du Kriyat Shema et que ça s'articule aussi avec la discussion qu'on avait entre Beth Hillel et Beth Shammai. Que Beth Hillel, ils te disent non, il n'y a pas de position pour le schéma. Quelle que soit la position, quelle que soit la situation, tu dois être capable de dire le schéma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait le schéma à quelqu'un qui va mourir. D'accord ? Même à ce moment-là, on doit être capable de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Oui, cher Meir.
Moi, je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on voulait dire que Dieu est responsable du mal.
C'est pas responsable. Non. Il a créé la possibilité de faire du mal dans le monde.
C'est
après, c'est l'humain.
C'est
après,
c'est...
Non.
Il a créé que potentiellement le
l'homme pourrait faire du mal.
Le mal peut se manifester dans le monde.
Oui.
Mais c'est l'homme qui est responsable par son action que le mal apparaît.
Oui.
Dieu, il a fait le mal que comme une possibilité éventuelle.
Oui. Oui, c'est juste. Oui. Amar Yehuda, Amar Shmuel. Dernier paragraphe de la page de la Mettet. Vous êtes bon?
Oui.
Comme ce soir, c'est l'avenir de Amaniakor, on va aller jusqu'à 9h15, ça va? Ah, je rigole. Amar Yehuda, Amar Shmuel. Alors. Ishkim Lishnot. Ad Shelo Kara Kriat Shema. Alors, oui, là, on entame un nouveau sujet. Bon, on a encore 10 minutes. Regardez, vous connaissez les brachot du matin, tous?
Birkot HaShachar.
Birkot HaShachar, tout le monde les fait, j'imagine, tous les matins. Donne-moi un petit filo.
Un patard.
Voilà. Alors. Les bénédictions du matin, ça vous dit quelque chose? Il y a deux pages, des très belles bénédictions, c'est très joli. C'est on remercie Hachem qui nous donne, qui nous permet d'aller aux toilettes, ce qui n'est pas évident. Plus on avance en âge, plus on se rend compte, c'est pas évident. Qui nous a donné la vision, qui m'aide à me relever, etc. Qui m'aide à m'habiller, etc. Qui me donne une terre, etc. sur laquelle marcher, etc. Tout est des brachot, d'accord? Dans le style de Dayenu. Ça veut dire que c'est vrai, quand on se lève, on dit merci mon Dieu. D'accord? Il dit merci mon Dieu. Oui, c'est pas seulement merci mon Dieu. Merci mon Dieu sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. D'accord? C'est le même principe que Dayenu. D'accord? On doit apprendre à dissocier le remerciement. Merci ma femme pour le repas de Shabbat. Oui, c'est merci beaucoup. Mais tu sais combien de temps j'ai passé? Et j'ai pêché les légumes, et j'ai cuit, etc.
Alors,
hein? Oui, c'est ça. Mais en réalité, dans chaque remerciement, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on se rend souvent pas compte de l'investissement. Non, ça veut dire que dans le merci, la femme, elle doit comprendre que c'est inclus. Ça veut dire qu'après, elle connaît son mari. C'est pas que... Mais c'est normal. C'est toi qui fais les courses, c'est toi qui es plus, c'est toi qui lave, c'est toi qui suis, c'est toi qui ça. Non, elle doit savoir que son mari, il est conscient, de, comme le mari aussi. Et c'est pas juste, j'étais au travail, j'ai ramené la paye. C'est ce que ça veut dire, faut que je me lève tôt, et je, dans le froid, et avec les clients qui me saoulent, et avec ci et ça, tout ça, ça se taille. Donc on est égal. En tout cas, dans les brachot, d'accord, il y a plein de brachot, et puis après, il y a les trois dernières qui sont des brachot étonnantes, ce qu'on appelle birkot à Torah. Ok? Ça vous dit quelque chose, les birkot à Torah? À la fin des brachot du matin, donc page 4.
Il y a même la prière de la production de la Torah. La prière du...
Il y en a trois. Bon, en vérité, il faudrait prendre tu sais quoi, s'il te plaît, passe tes patach Eliyahu. Vas-y, Meir, tu peux donner patach Eliyahu à tout le monde plutôt que de parler dans le vide. Je croyais que c'était un truc. Greg, je croyais que c'était un truc, une oreillette avec le SPCJ, moi. Vous savez, dans le dos, là. C'était un truc rouge, là.
J'en ai un ici avec la traduction, si vous voulez.
Allez, vous êtes bon, page 4. Tout le monde, la page 4.
J'ai un ici avec la traduction.
Passe 10. Encore, il manque.
Il manque?
Ah bah, tout le monde n'a pas.
Ah bah, j'en ramène.
Il en faut 12. Allez, c'est bon. Là, ici, là. Je suis ensemble. Vas-y. Pierre, tu as. Allez, tous les deux, suivez. Vous êtes bon, page 4? Alors, regardez. Si vous prenez la page 1, Vous avez la première qu'on doit connaître par cœur pour lire en se levant. Modéani, ça se connaît. Après, celle des nettoyages interdits quand on se lave les mains, celle des toilettes, tatati, tatata. Après, vous avez la page 3, la page 2, la page 3, on reviendra un de ces jours. Vous prenez la page 4. Dans la page 4, vous avez, dans la marge de droite, un petit truc qui s'appelle Birkot à Torah.
Ouais.
D'accord? C'est parce que ces trois passages qui se suivent font un petit bloc qui sont les bénédictions de la Torah. Et en bas, vous avez Birkat Kohanim. Alors pourquoi on lit Birkat Kohanim?
C'est un passage de la Torah.
Et pourquoi on lit ça?
Pour faire l'étude de la Torah au quotidien.
D'accord? Voilà déjà des érudits. Parce que les brachot de la Torah, oui, si on dit bracha, regardez la première, en face du Birkat Torah. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidishanu Bemitzvot Avetzivanu Al Divrei Torah, qui nous a sanctifiés et nous a ordonné sur les paroles de la Torah. Donc, égal quoi, Chazolos? Qui nous a sanctifiés et nous a ordonné les paroles de la Torah. Ça veut dire que quoi? On est dans quoi là-dedans? Quand on dit béni soit l'Éternel qui nous a sanctifiés et qui nous a ordonné de. C'est chiouvi, c'est une obligation. C'est pas des rabbins. Les trucs des rabbins, c'est exceptionnel, c'est des exceptions. Mais en général, quand tu vois ça, qui nous a sanctifiés et nous a ordonné, ça parle d'une obligation de la Torah. Quelle obligation de la Torah? Qui nous a oui, d'étudier la Torah. Donc tous les matins, on fait une bracha qui justifie votre présence ici. Ça veut dire pourquoi on est là? Pour étudier, parce qu'il y a une obligation d'étudier la Torah. Ah maintenant, vous allez me dire, mais ça c'est bon pour le mardi. Mais mercredi, je vais quand même la faire, cette bracha-là. Et je vais pas étudier, par exemple. Alors c'est pour cette raison que les chachamim, comme il a dit Maurice, ils ont mis en bas Birkat Kohanim. Ah pourquoi Birkat Kohanim? Parce qu'en même temps, je me fais une petite bénédiction, que Dieu me protège, etc. La bracha des Kohanim, c'est toujours bon à prendre. Et en même temps, je dis un texte de la Torah. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit d'ailleurs, la halakha qu'on ne doit pas apprendre aux ignorants?
Oui, pour le schéma.
Voilà. Qu'on ne doit pas dire ça aux ignorants. La Gemara a dit, mais je te dis en cachette, elle dit la Gemara, n'enseigne jamais ça à des ignorants, qu'en réalité, on peut être quitte de l'obligation de la Torah, d'étudier la Torah avec le schéma. Ça veut dire, d'accord? Si tu lis le schéma, ben, t'as fait un peu de Torah, quoi. Donc, mais la Gemara dit, il ne faut pas dire, parce que les gens, après, ils en ont pris au chiour. S'ils vont dire, j'ai fait le schéma, ça suffit, j'ai fait, vite, je rentre. En tout cas, voilà. La première, c'est... Or, vous voyez qu'il y en a trois. On va expliquer pourquoi il y en a trois. La deuxième, c'est V'arevna, etc., etc., ouais. Rend agréable. Alors, donc la première, c'est clair. V'arevna, arev, c'est agréable. Rend agréable. S'il te plaît, Hachem, le Kenya divré Torah, les paroles de la Torah, befinu, dans notre bouche, befio d'Amecha Bet Israël, dans les bouches de ton peuple, dans la bouche de ton peuple, c'est-à-dire nos contemporains, veni anachnu v'tzetzaenu, que nous soyons nous et nos descendants, v'tzetzaenu, et les descendants de nos descendants, nos petits-enfants, kulanu yodé shemecha, que tous ont, connaissent la Torah, velom de Torah techa lishma, et qu'on étudie la Torah, les shem shamaim, bauchat Hachem, amelamed Torah l'amo Israël. Qu'Hachem, il enseigne la Torah à son peuple. C'est-à-dire, à la différence de la première bracha, qui était, j'ai l'obligation d'étudier, et cette fois-ci, on dit, oui, c'est vrai, mais l'obligation d'étudier ne peut venir que si c'est agréable. Je ne peux pas étudier quelque chose si ce n'est pas agréable. Donc, on te demande, Hachem, en contrepartie, de rendre les choses agréables. C'est-à-dire, comment rendre les choses agréables? En nous faisant percer les secrets de la Torah, l'intériorité de la Torah. Et enfin, Asher Bacharbanu, la troisième, c'est ce qu'on dit à la Torah, Asher Bacharbanu Kinkola Amim, qui nous a choisi parmi tous les peuples, Venatan Lanu et Torato, et qui nous a donné sa Torah, Baruchat Hashem Noten la Torah, qui donne la Torah. Alors, quelle différence il y a entre ces trois brachot? Pourquoi il y a trois brachot? La première, c'est normal, c'est la bracha de l'obligation. La deuxième, d'accord, ça nous montre quelque chose, que dans la Torah, il y a une partie qui est accessible à l'homme, dans le message de la Torah, il y a une partie qui est accessible à l'homme par sa réflexion, et il y a une partie qui est inaccessible à l'homme, la profondeur de la Torah, ce qu'on appelle la pnimiyut, l'intériorité de la Torah, et qui ça ne peut être qu'en cadeau par Hachem, quand quelqu'un y s'investit. Et quand on dit l'intériorité de la Torah, c'est pas la Kabbalah forcément. C'est comprendre qu'est-ce que veut un texte, comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous avec la Torah. Or ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du don. C'est ce qu'on dit tous les matins. On te demande de nous rendre agréables les choses, que mon étude, ce que j'étudie, le chômage, ce que j'étudie n'importe quoi, aide-moi à percer les secrets de la Torah. Et enfin, la dernière bracha, c'est, qui est bizarre, noten la Torah, qui donne la Torah. Qu'est-ce que c'est dans la Torah? En plus, c'est marqué Asher Bachar Banu, que l'ami qui nous a choisi entre tous les peuples. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous a choisi entre tous les peuples pour nous donner sa Torah?
Non.
Pourquoi non?
Parce qu'il a proposé à nations, qui n'ont pas voulu.
Il a proposé aux nations qui ont refusé.
Donc il ne nous a pas choisi, c'est nous qui l'avons choisi.
Et en plus, non, on ne l'a pas choisi puisqu'il nous a mis la montagne sur la tête.
Quoi? Donc comment on peut dire Asher Bachar Banu Benatan Lanouet Torah, il nous a donné sa Torah en nous choisissant, mon frère, il nous a donné la Torah. Oui, alors en réalité, cette troisième bracha, cette troisième bracha, en réalité, elle signifie quelque chose. C'est que, depuis qu'il y a eu le don de la Torah, entre guillemets, Hachem s'est dessaisi de son pouvoir sur la Torah, son pouvoir décisionnel. C'est-à-dire Hachem, il nous a donné une Torah, il a délégué au... à ceux qui étudient, à ceux qui veulent s'investir, la gestion de la Torah. C'est-à-dire, si les Chachamim décident, ils décident. D'accord? C'est la fameuse histoire, on va y arriver dans quelques années, où il y avait une fois une discussion entre des Chachamim sur une halakha, très complexe. Et il y a un des protagonistes, c'est Rabbi Yehoshua, qui a dit, c'est Rabbi Eliezer, qui a dit, bon, il a essayé plein de trucs pour convaincre les autres, et il a dit, si j'ai raison, qu'une voix céleste l'affirme. Et il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a dit, mais oui, c'est lui qui a raison. C'est le Rabbi Yehoshua, qui était un des protagonistes, il a dit, pouet, la Torah a été donnée, une fois qu'elle a été donnée, c'est plus au ciel de s'en préoccuper. C'est-à-dire, les décisions sont laissées aux hommes, aux Chachamim. Alors, bien sûr, pas à n'importe qui. C'est les Chachamim qui ont la gestion. C'est dans ce sens-là qu'on dit Hachem, Baruch Hachem, dans la Torah. Donc, il y a une sorte de gradation dans les trois brachot. La première, c'est
l'obligation.
J'ai l'obligation d'étudier la Torah à vos ordres. Cher qui déchange, mais c'est à dire Torah. D'accord. La deuxième, c'est vrai que j'ai l'obligation. Mais pour que ça porte des fruits, je te demande de ton côté de la rendre agréable. Pourquoi pour la rendre agréable? Pour que je puisse la transmettre. Parce que si c'est pas agréable, si ma Torah n'est pas agréable, elle s'arrêtera à moi, elle peut pas aller à mes enfants. D'accord? C'est le problème de la transmission. Que en Afrique du Nord et un peu en Pologne, la transmission, il n'y en avait pas. D'accord? Nos grands-pères, peut-être, il y en avait qui faisaient, mais c'était pas agréable. Ils avaient des coups, et puis si et ça, c'est une des difficultés qu'a connu le judaïsme d'Afrique du Nord. Ce qui a fait qu'une fois qu'on a traversé la Méditerranée, c'est pas passé à l'autre génération. Ils ne sont passés que les minagim, les coutumes, etc. Or, en réalité, c'est ce qu'on demande, et vous regarderez, pour que nous soyons, nous, nos enfants et nos petits-enfants, des gens qui connaissent ton nom et qui étudient la Torah, t'es obligé de la rendre agréable pour que je puisse montrer à mon enfant comment c'est agréable le shiur, comment c'est agréable la Torah, et c'est pas juste lire des livres, c'est pas ça. D'accord? Donc en vérité, ça c'est une prière qu'on demande à Dieu. Et enfin, la dernière, c'est que si, un, j'ai accepté l'obligation d'étudier, deux, c'est agréable, et bien maintenant j'ai tous les éléments pour pouvoir être un décisionnaire. Je peux gérer, c'est moi qui gère mon monde, c'est-à-dire je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et je règle, je dis dans telle situation j'ai le droit, dans telle situation j'ai pas le droit, c'est les Chachamim. Alors, c'est vrai qu'en général, on s'appuie sur les Chachamim, mais en réalité, chacun, s'il a l'honnêteté et le recul et les connaissances, il peut être son propre Chacham. Ça veut dire que quelqu'un qui est un peu érudit, qui a un peu de connaissances, il peut répondre aux questions de sa femme. Il n'est pas toujours obligé de téléphoner ou de regarder Dora Box. Quand vous avez un peu de connaissances et de l'honnêteté intellectuelle, il y a un moment où on peut soi-même gérer les situations. D'accord? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de devenir autonome dans la Torah. Ok? Donc voilà pourquoi elle dit voilà pourquoi on a trois brachot. Ok? Bon, je vais m'arrêter là parce que après on va entamer ça. Mais sur le principe de brachot, on verra après, ok? À la guitare, on fait gadi, je reviens à la natation, mais à la guitare, je vous dis 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 à la gu